VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, bonjour à toutes et à tous, édition du lundi 25 avril 2022, en direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Mouamadou Oumfa.
Nous commençons par les titres.
Au Mali, 6 soldats ont été tués dans 3 attaques revendiquées par un groupe lié à Al-Qaïda.
Burkina Faso, des attaques djihadistes simultanées contre 2 détachements militaires ont fait 15 morts.
Au Nigeria, au moins 110 personnes sont mortes lors d'une explosion dans une raffinerie illégale.
Au Soudan, au moins 168 personnes ont été tuées dimanche dans des violences au Darfour entre tribus arabes et africaines, un des bilans les plus lourds dans cette région.
Emmanuel Macron a été réélu au second tour de la présidentielle française face à Marine Le Pen.
Anthony Blinken et Lloyd Austin, les responsables américains de la diplomatie et de la défense, sont à Kiev pour la première fois depuis le début de la guerre.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Mali, 3 camps militaires ont été attaqués par des terroristes dimanche dans le centre du pays. Les circonstances des attaques et le premier bilan avec notre correspondant Mohamed Danioko.
À Sévaré, l'une des plus grandes bases militaires du pays et quartier général, de nombreuses opérations menées dans le centre du pays a fait l'objet d'une attaque à la voiture piégée ce dimanche matin aux environs de 5 heures. En plus de ce camp, ceux de Nyono et de Bafo étaient tous attaqués au même moment. Cette attaque simultanée qui a visé des positions stratégiques de l'armée a été, selon la DIRPA, contenue et repoussée par les forces armées. Une information qui nous a été confirmée par les sources que nous avons pu joindre par téléphone à Sévaré et à Nyono, même si la population, elle, hésite encore à vaquer à leurs occupations. Dans son dernier communiqué, la DIRPA affirme que l'attaque du camp de Sévaré a fait 6 morts du côté des forces armées maliennes et 15 blessés. Du côté des terroristes, il y a eu 11 morts dans le kamikaze. Par rapport au camp de Bafo, il y a eu un blessé du côté des forces armées et un hélicoptère légèrement endommagé. À Nyono, il y a eu 4 blessés et 2 véhicules endommagés, bilan côté des forces armées maliennes. Aux dernières nouvelles, ces attaques simultanées ont été revendiquées par Abou Karimi, dit le Moussi de la Katiba Massina de Amadou Koufa. Mohamed Danioko pour VOA Afrique, Bamako.
Au Burkina Faso également, des attaques simultanées ont été perpétrées contre 2 détachements militaires dans le nord. Les précisions de notre correspondant Lamine Traoré.
Ces attaques ont fait 15 morts dimanche. Il s'agit de 2 attaques simultanées à Gaskindé et Pobé Mengao, des localités de la province du Soum, région du Sahel. Selon le communiqué de l'état-major, elles se sont déroulées de façon quasiment simultanée. La première attaque, celle de Gaskindé, a fait 9 morts, dont 5 militaires, 4 civils et 15 blessés, indique l'armée. Quant à celle de Pobé Mengao, elle a causé la mort de 6 personnes, dont 4 militaires et 2 supplétifs de l'armée, appelés volontaires pour la défense de la patrie. Se référant au communiqué de l'armée, une quinzaine de personnes ont été blessées. L'état-major a rassuré que la situation est sous contrôle et que des opérations de sécurisation sont en cours. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Nigeria, une explosion dans une raffinerie clandestine a fait au moins 80 morts dans la région pétrolière du delta du Niger, dans le sud du pays. Cette région fait face à des décennies de vandalisme et d'exploitation illégale d'hydrocarbures. Le point avec Abdourahmane Dia.
L'explosion s'est produite sur un site clandestin entre les états pétroliers de Rivers et Dimo, selon la police et les services de secours. Ifeanyi Nadji, un responsable local de l'Agence nationale de gestion des urgences, précise que le bilan pourrait s'alourdir. Nous avons appris que de nombreux corps se trouvaient dans la brousse et les forêts avoisinantes, a-t-il ajouté, précisant que plusieurs véhicules et jerrycans calcinés jonchaient le sol noirci de pétrole. De nombreuses personnes ont été blessées, dont certains avec des brûlures graves, toujours selon M. Nadji. La police confirme que l'explosion a eu lieu sur le site d'une raffinerie clandestine où des opérateurs et leurs clients étaient rassemblés pour se livrer au trafic. Une enquête est en cours pour déterminer ce qui a provoqué l'explosion. Selon la police, le propriétaire de la raffinerie est lui aussi recherché. Selon des sources du secteur formel, le Nigeria perd chaque jour environ 200 000 barils à cause du vandalisme et du vol de pétrole.
Le président rwandais Paul Kagame est arrivé hier à Kampala, en Ouganda. C'est sa première visite en 4 ans dans ce pays. Il va y rencontrer son homologue Yoweri Museveni et prendre part au 48e anniversaire du fils de M. Museveni, Mwosi Kainerou Gaba, grand artisan du rapprochement entre les deux pays selon la radiodiffusion publique rwandaise.
Il s'agit là d'un signe supplémentaire d'un rapprochement entre ces deux pays voisins. Il y a quelques semaines, l'Ouganda a expulsé un membre de premier plan du RNC, le Congrès national rwandais, que Kigali considère comme une organisation terroriste.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En France, le président Emmanuel Macron rempile pour un second quinquennat. Il a obtenu plus de 58% des voix face à Marine Le Pen, qui avec environ 42%, et réalise cependant le plus important score de l'extrême droite à une élection présidentielle depuis le début de la Ve République en 1958. Le point avec Éric Manerakidza.
Les Français ont donc choisi de reconduire un président centriste libéral et très pro-européen face à une candidate radicale ayant la priorité nationale au cœur de son projet et extrêmement critique vis-à-vis de l'Union européenne. Mais cette élection s'inscrit dans un contexte d'abstention record, estimé à près de 28% par l'IFOP, un taux inédit pour un second tour depuis 1969. En réaction, Marine Le Pen a déclaré que les idées qu'elle incarne arrivent à des sommets et qu'elle n'abandonnerait jamais la France. Les dirigeants de l'Union européenne ont félicité dimanche Emmanuel Macron pour sa réélection. Le président du Conseil européen Charles Michel se félicite, je cite, « que l'Europe puisse compter sur la France 5 ans de plus ». Je me réjouis de pouvoir continuer notre excellente coopération. Ensemble, nous ferons avancer la France et l'Europe, a pour sa part dit la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le chancelier allemand Olaf Scholz et le premier ministre britannique Boris Johnson ont aussi félicité Emmanuel Macron.
Signalons que le soir de l'élection présidentielle française, des policiers ont tiré à Paris sur un véhicule qui a tenté de les percuter, tuant 2 occupants du véhicule et en blessant 1/3.
En Russie, un grand dépôt de carburant était en flammes ce lundi dans une ville située près de la frontière ukrainienne, ont rapporté les autorités russes sans préciser les raisons de l'incendie. Selon les premières informations, il n'y a pas de victimes. Cette ville, Bryansk, sert de base logistique à l'invasion russe en Ukraine.
L'Ukraine peut gagner la guerre contre la Russie si elle dispose de bons équipements, a déclaré le chef du Pentagone, Lloyd Austin, au retour d'un déplacement à Kiev avec le secrétaire d'État américain Antony Blinken. La première chose pour gagner, c'est de croire que l'on peut gagner, et s'ils sont convaincus qu'ils vont gagner, qu'ils peuvent gagner, a dit Lloyd Austin à quelques journalistes à propos des Ukrainiens. Ils peuvent gagner s'ils ont de bons équipements, le bon soutien, a-t-il ajouté, après cette visite au cours de laquelle les deux ministres ont rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est lui attendu ce lundi en Turquie, pays qui tente de jouer les médiateurs dans le conflit, avant de se rendre à Moscou puis à Kiev. Le nombre de réfugiés ayant fui l'Ukraine depuis l'invasion russe approche des 5,2 millions selon l'ONU. Plus de 7,7 millions de personnes ont aussi quitté leur foyer, mais se trouvent toujours en Ukraine.
Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a discuté dimanche de Jérusalem avec le roi Abdallah II de Jordanie et le prince héritier d'Abu Dhabi Mohamed Bel Zayed al-Nahyan. La communauté internationale craint un nouvel embrasement dans la ville sainte après les violences qui ont éclaté à la mi-avril sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est.
Selon un porte-parole égyptien, les trois dirigeants arabes ont plaidé pour poursuivre les efforts pour ramener le calme à Jérusalem et préserver le statu quo légal et historique. Ce statu quo veut que les musulmans peuvent prier sur l'esplanade des mosquées, troisième lieu saint de l'islam et lieu le plus sacré du judaïsme, mais pas les fidèles des autres religions. La Minute Éco avec vous, Mohamed Oumfa.
Au Congo, un accord a été finalisé jeudi à Brazzaville entre le gouvernement et Eni Congo, filiale de la société italienne d'hydrocarbures Eni. L'accord prévoit l'accélération et l'augmentation de la production de gaz au Congo par le développement d'un projet de gaz naturel liquéfié avec un démarrage prévu en 2023 et une capacité estimée à plus de 3 millions de tonnes par an. Au Nigeria, une explosion a eu lieu vendredi dans une raffinerie de pétrole clandestine dans le sud, entre les États de Rivers et d'Imo, au moment où opérateurs économiques et patrons étaient réunis, faisant au moins 80 morts. Le raffinage clandestin est très répandu dans le sud pétrolier du Nigeria, premier producteur de pétrole d'Afrique, où les oléoducs sont régulièrement victimes de sabotage, les voleurs raffinant le pétrole brut ainsi recueilli pour le vendre sur le marché noir. Au Maroc, la flambée des prix de carburant a ravivé une polémique sur les conflits d'intérêts entre les milieux d'affaires et le monde politique, exposant à de vives critiques le Premier ministre Aziz Akanouche, magnat du pétrole.
Les sports à présent avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Avant d'en venir au terrain, un petit tour par les coulisses de l'Assemblée générale de la FIF. Idriss Diallo est le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football.
Oui, l'homme d'affaires a été élu d'une coup de tête devant Sori Diabaté à l'issue de l'Assemblée générale élective qui a eu lieu à Yamoussoukro. Une élection serrée qui s'est jouée au second tour de scrutin par 63 voix contre 61. Yassine Idriss Diallo, vice-président d'AFAD d'Abidjan après sa victoire, a appelé à l'union du monde du football ivoirien divisé depuis 2 ans.
Le rassemblement est la base de notre vision. Rassembler pour développer, ce n'est pas uniquement un slogan. Je l'ai dit, notre pays a une devise, union, discipline, travail. Parce que dans la division, on ne peut rien bâtir.
L'ancien vice-président de la fédération sous Jacques Anouma peut assurer la passation dans les prochains jours, a-t-il assuré, puisque l'enquête d'intégrité qui devrait confirmer cette élection aurait été dévoilée au candidat la veille. Déception en revanche pour l'ancienne star Didier Drogba qui ne fera pas comme Samuel Eto'o au Cameroun. Il a été éliminé dès le premier tour en ne rassemblant que 21 voix.
Sur le terrain, cette fois avec les coupes africaines, des clubs et le TP Mazembe rejoignent le dernier carré de la Coupe de la Confédération.
Tout à fait. Les Corbeaux, totalement dominateurs en première période devant les Égyptiens de Pyramide, ont vite fait la différence en marquant 2 buts grâce à Kofi Kwame et Kitambala Bola. Après avoir ramené le nul 0-0 d'Égypte, le club de Lumumbashi s'impose donc 2-0 à domicile et jouera au prochain tour les Marocains de Berkane qui ont renversé l'autre club égyptien Al-Masri. Défaite 2-1 il y a une semaine, le club entraîné par Florent Ibengue a réalisé le minimum à domicile 1-0, profitant du but marqué à l'extérieur.
Ça passe aussi pour les Sud-Africains d'Orlando Pirates.
Oui, le club de Soweto, battu 1-0 à l'aller par les Tanzaniens de Simba Sport, a pu refaire son retard avant de s'imposer après la séance des tirs au but 4-3. Il affrontera en demi Al-Ahli Tripoli, vainqueur 1-0 d'Al-Ittihad dans le duel libyen. Le score du match aller était de 0-0. Les matchs aller de cette demi-finale auront lieu le 8 mai prochain, retour une semaine plus tard.
On connaît aussi les demi-finalistes de la Ligue des Champions.
Et ce sera avec Al-Ahli du Caire, le tenant du titre, qualifié après son nul 1-1 contre le Raja de Casablanca. En demi-finale, le géant du Caire affrontera l'entente de Sétif qui a créé la surprise en allant battre 1-0 l'Espérance de Tunis sur sa pelouse. Autre sensation, celle des Angolais du Petro Atlético qui se sont qualifiés aux dépens des Sud-Africains de Mamelodi Sundowns. Ils croiseront en demi-finale le Wydad de Casablanca, tombeur des Algériens du CR Belouizdad. Enfin, du basketball pour finir, la NBA et avec vous Idrissa, les résultats des playoffs joués cette nuit.
Boston bat Brooklyn Nets 109-103 et mène la série 3-0. Milwaukee bat Chicago 119-95 et mène la série 3-1. Miami bat Atlanta 110-86 et mène la série 3-1. Denver bat Golden State Warriors 126-121. Golden State mène la série 3-1.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, la ville de Sévaré s'est réveillée en catastrophe hier matin. Un véhicule piégé s'est introduit dans le camp de l'armée de terre et une fois à l'intérieur, le kamikaze a fait exploser l'engin dans la cour, faisant des morts et des blessés ainsi que des dégâts matériels. Pour davantage de détails, notre correspondant à Mopti, Mamadou Boukoum.
Tout a commencé vers 5 heures du matin où un bruit abasourdissant a réveillé les populations de Sévaré et Mopti. C'est un véhicule piégé qui a fait irruption dans le camp Amadou Boukari Bari dit Balobo de Sévaré, un camp qui abrite l'armée des terres, en même temps le QG de l'opération Maliko Théâtre Centre du pays. Des habitants témoignent.
Ce matin, vers 5h15 plus précisément, on a entendu une très forte détonation qui venait vers le camp Amadouno Boukari Bari di Balobo de Sévaré. On n'en savait pas trop, mais après la détonation, il y avait des tirs nourris des mitrailleurs qui accompagnaient directement la détonation.
Toute la ville de Sévaré s'est réveillée par une forte détonation accompagnée de tirs d'armes lourdes qui ont duré plus d'une demi-heure. C'était des tirs entre nos femmes et les ennemis. Et c'est après que les hélicos ont pris la danse, laissés envahis par des hélicoptères de mon point de vue qui étaient pour le ratissage en quelque sorte. Bah, présentement, la situation est vraiment calme. C'est vrai, bien que le marché a été vidé pour raison de sécurité, la population de Sévaré continue à vaguer à ses occupations.
Selon un communiqué de la Direction de l'information et des relations publiques des armées d'IRPA, le bilan fait état de 6 morts et 15 blessés dans le rang des forces armées maliennes et 11 morts et des matériels saisis chez les assaillants. Cette attaque matinale perpétrée simultanément contre les camps de Sévaré, Bafo et Nyono dans le centre du pays est revendiquée par la Katiba de Bassina de Hamadoun Koufa qui a fait allégeance à Ansardine de Yad Agali. Pour éviter de pareilles situations, un habitant de Sévaré fait une proposition.
Il faut être très vigilant aujourd'hui là où nous sommes parce qu'on est une guerre asymétrique. Surtout les sentinelles qui sont aux devantures des portails. Donc il faut être très vigilant et fouiller tout et connaître ceux qui sont à l'intérieur.
Cette attaque intervient au moment où des affrontements se multiplient au centre du pays. Le mardi dernier, des échanges de tirs entre les FAMA et les groupes armés ont eu lieu à Kabio, dans la commune de Soy, cercle de Mopti, et à Ombori, dans le cercle de Douanza. Mamadou Boukoum à Mopti pour VOA Afrique.
Dimanche, sous haute tension donc, dans le centre du Mali, selon l'armée malienne, 6 soldats ont été tués dans 3 attaques simultanées dans la région, des attaques perpétrées avec des véhicules bourrés d'explosifs contre 3 camps militaires. 20 militaires ont aussi été blessés dans les 3 camps visés à Sévaré, Bafo et Nyono. Pour davantage de détails encore, Bagassi Koura a joint hier dans cette région Oumar Diabaté, journaliste à Mopti. Il revient surtout sur l'attaque du camp militaire de Sévaré, le plus grand de la région.
Le camp Amadouno Boukari Bari de Dibalobo de l'armée de terre Sévaré, 6e région militaire, a été la cible d'une attaque kamikaze de ce jour dimanche 24 avril 2022 aux environs de 5h20 avec une forte détonation suivie de tirs d'armes automatiques. La situation est sous contrôle, le calme est revenu partout dans la ville et les populations vaquent librement à leurs occupations.
Est-ce qu'on sait qui sont ces assaillants-là?
Bon, ce sont les assaillants du Katiba de Massina, c'est-à-dire les gens de Amadoun Koufa.
Qui sont très présents dans la région.
Qui sont très présents dans la région et c'est des jeunes, ils sont très jeunes.
Il y a eu des rumeurs qui ont circulé que la MINUSMA a aussi été appelée en renfort. Est-ce que vous en savez quelque chose?
Ça, je me réserve, je n'en sais rien, dans ce, je me réserve vraiment.
C'est la première fois que ce camp a subi ce genre d'attaque?
Oui, je peux dire la première ou la deuxième fois, parce que l'autre fois, la fois dernière, là où était le camp du G5 Sahel, ça c'était le côté nord du camp qui a été attaqué. C'est le moment où le G5 Sahel avait la base était à Sévaré, avant qu'il ne déménage à Mopti. Mais c'est une première quand même qu'on attaque de façon officielle les camps Balobo de Sévaré. On peut dire que c'est une première officiellement.
Quelle est l'importance de ce camp-là? C'est le plus grand de la région, c'est ça?
Bien sûr, oui. Ce que les gens sont en train de dire un peu dans les coulisses là, c'est pour dire que actuellement le camp est dans la ville et que les autorités doivent prendre des initiatives pour pouvoir vraiment déplacer un peu le camp, peut-être à l'entrée de la ville, hors de la ville quoi, Nemo.
Comment est-ce que la population réagisse après ces incidents-là?
Bon, la population, pratiquement ce matin, le moment où la détonation avait passé vers 5h20, je vous dis, tout le monde avait le moral au talon. Mais à l'heure où je vous parle, les populations sont vraiment engagées et en disant aussi que soutien total aux FAMA. Et les gens sont en train de dire partout où vous passez, les gens sont en train de dire bravo à nos FAMA, bravo à nos FAMA.
Qui disent avoir pris le dessus et repoussé les assaillants.
Le dessus sur les assaillants.
C'était Oumar Diabaté, journaliste, joint hier à Mopti, hier dimanche, dans le centre du Mali.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Journée mondiale de lutte contre le paludisme, ce lundi 25 avril, selon l'OMS, la maladie sévit dans 87 pays. Au Cameroun, par exemple, se coordonnent depuis 3 ans les activités du réseau mondial pour l'élimination du paludisme. Notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Jultap, a rencontré quelques membres de ce réseau.
Quand j'étais enfant, j'ai eu un paludisme grave. J'ai dû être hospitalisée pendant au moins une semaine. Qu'en est-il des personnes qui n'ont pas cette chance d'avoir accès aux services et aux soins de qualité contre le paludisme?
La Camerounaise Olivia Ngou, une survivante du paludisme, est aujourd'hui directrice de l'ONG Impact Santé Afrique basée à Yaoundé et assure le secrétariat technique du réseau mondial de la société civile pour l'élimination du paludisme.
Nous avons plus de 400 organisations dans 43 pays. Au Cameroun, on a près de 50 organisations. On renforce les capacités, on fait beaucoup de formations sur les stratégies de lutte contre le paludisme. Par exemple, en ce moment, on a des problèmes de résistance de certains antipaludiens. On a aussi des nouvelles stratégies qui sont en train d'être adoptées ou qui vont bientôt être portées comme le nouveau vaccin.
Le réseau a fait des diagnostics sur les obstacles à l'accès aux services de santé en matière de lutte contre le paludisme au Cameroun, au Niger et au Nigeria. Olivia Ngou, directrice d'Impact Santé Afrique.
Beaucoup de femmes nous ont dit, lorsque mon enfant a fait le paludisme, tu n'es pas les 50 000 francs. D'autres barrières, c'est les femmes peut-être doivent souvent donner la permission à leur mari avant d'aller dans le centre de santé, surtout se faire consulter par un homme. Il y a certaines familles qui, le centre de santé le plus proche est juste à des heures de marche, qui n'ont pas de moyens pour se rendre aussi loin. D'autres, des fois, font face à des difficultés en termes de langage, ils ne comprennent pas, ils s'expriment en langue locale. Des fois, ils ne sont pas bien accueillis et ils entendent qu'il y a la gratuité des médicaments.
L'association Power est membre du réseau mondial de la société civile pour l'élimination du paludisme qui fait officiellement près de 4000 morts par an au Cameroun. Suzanne Billot, fondatrice de l'association Power.
Nous faisons beaucoup de sensibilisation sur le terrain et nous avons une activité que nous appelons Parer pour la rentrée. Et nous nous attelons pendant la dite activité à sensibiliser les enfants.
Selon l'OMS, 70% des personnes qui meurent du paludisme dans le monde sont des femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Joseph Watteau est le directeur exécutif des organisations d'approche participative, développement et de santé de proximité au Cameroun.
Il est donc nécessaire de leur donner la bonne information et de savoir que chaque 2 minutes, au moins un enfant décède du paludisme dans le monde. Et au Cameroun, c'est, selon le programme paludisme, environ 30 décès par jour.
Le réseau mondial de la société civile pour l'élimination du paludisme mène actuellement un plaidoyer pour que les États africains africain et du monde, mobilise en septembre prochain 18 milliards de dollars lors de la conférence de restitution des ressources du Fonds mondial, qui est le premier bailleur de la lutte contre le paludisme, le VIH et la tuberculose. Yaoundé, Emmanuel Jeune-Tap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Le nouveau patron de la Fédération de football de Côte d'Ivoire se nomme Idriss Diallo. Il a été élu samedi dernier face à deux adversaires, la vedette Didier Drogba et Sori Diabaté. Que pensent les Ivoiriens de ce choix? Aïcha Diarra, notre correspondante à Abidjan, a recueilli ses réactions.
On aurait bien voulu voir à la tête donc de cette fédération une icône, une légende, quelqu'un qui a fait ses preuves dans le monde du football, Didier Drogba. Mais aujourd'hui, nous osons croire qu'avec l'avènement donc de Yacine Diallo à la tête donc de la fédération ivoirienne, ce sport phare donc en Côte d'Ivoire se portera mieux.
On ne peut pas changer un système en étant hors de ce dernier. C'est ce qu'on retient comme la leçon. Hein. Didier Drogba avait cette la notoriété, la célébrité, il était cet aimé, mais il n'appartenait pas au système. Il n'a pas pris, selon moi, le temps d'intégrer ce dernier, connaître les rouages et puis s'imprégner de la réalité du système. On peut avoir les bonnes volontés, mais si on ne connaît pas les rouages, on se verra être bloqué à la porte, et c'est ce qui est arrivé.
Samuel Eto'o a eu maille à partie avec la plupart des joueurs de la sélection. Mais Samuel Eto'o est revenu vers eux, les appelant mes grands frères, dans la pure tradition africaine, dans le pur respect africain. Et il a su fédérer tout cela autour de lui, de sorte à ce que tout cela puisse l'accompagner, même le club. Mais on n'a pas senti ça en Drogba. C'est-à-dire qu'il a d'abord médiatisé sa chose. Je pense que Drogba peut aider le football ivoirien autrement.
Bon, moi, il n'a rien compris. Hein. Drogba a amené un nouveau projet qui était la renaissance du football ivoirien. C'était plus par rapport aux joueurs locaux. Les joueurs internationaux, ils ont déjà leur agent, ils sont bien là-bas. Mais c'était plus par rapport aux joueurs locaux, en fait. Donc, c'est un peu dommage. J'espère que lui qui est déjà là pourra mettre en application le programme qu'il a dit. Parce que moi, personnellement, j'aurais préféré que Drogba soit président de la FIFA parce qu'il avait un projet concret par rapport aux joueurs locaux. Hein, parce qu'au moins, ils allaient avoir une vie, une maison, au moins un cadre pour pouvoir mieux exercer leur métier. Ils n'ont pas demain regretté. Mais ils ont préféré un autre candidat. Bon, c'est la vie. C'est leur choix et j'espère qu'il fera un bon travail.
Idriss Diallo, c'est un homme d'affaires. Il faut le dire, c'est ceux-là même qui ont été à l'origine du renouveau du football ivoirien. En tout cas, je vais parler de l'équipe nationale. C'est eux qui sont allés chercher toutes ces stars qu'on connaît aujourd'hui. Même Drogba lui-même, on va dire que c'est l'œuvre aussi d'Idriss Diallo. On a vu Jacques Anouma, mais tout ce travail qui se faisait derrière là, c'était eux. C'était Idriss Diallo. Donc, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle quand il parle. C'est un travailleur de l'homme. Je pense que c'est son heure de gloire qui est arrivée.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
Je suis un noir. Ma peau est blanche. Et moi j'aime bien ça.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedoudia et de Mohamed Humfa. Georges Léonard Sagnot était à la mise en onde et Kelvin Fowler à la console. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24.